Cinémag avec Cédric Séquinel.
Bonjour à tous et bienvenue sur Cinémag, votre émission de cinéma confiné pour encore un petit moment. Nous sortons d'une période de fête et donc à ce titre, je vous réitère mes vœux de bonne année si vous ne les avez pas eus lors de notre émission du 1er janvier. Bon, je dois vous avouer que là, avec ces périodes, il n'y a pas eu énormément de nouveaux films sur les plateformes de streaming, hein, qui est le seul moyen de voir des nouvelles choses. De fait, je vais pas pouvoir vous critiquer quoi que ce soit cette semaine. En revanche, hein, ce n'est pas parce que la production de films est un petit peu à l'arrêt, qu'il n'est pas possible de regarder des vieux films, voire des bons films sur ce genre de plateforme. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver l'intégrale des films de François Truffaut, de David Lynch ou encore de Claude Sauté sur Netflix, tandis que l'offre Amazon Vidéo vous propose des centaines de films vraiment pour les cinéphiles, comme tous les Martin Scorsese ou les Robert Altman, par exemple. Mais bon, je vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vous avoue en fait que pendant les fêtes, j'avais envie de me détendre un petit peu, et quoi de mieux pour se détendre que de se regarder un bon blockbuster, voire une bonne grosse franchise de blockbuster. Et ça tombe plutôt bien, parce que Amazon, il propose depuis début décembre beaucoup de grosses franchises de films comme la saga des Aliens, la saga des Predators, ou encore la nouvelle saga de la planète des singes, dont nous allons parler en première partie. Je vous parlerai ensuite d'une autre série assez incroyable, mais malheureusement abandonnée, The Away. Alors accrochez vos ceintures. C'est parti! Je vais donc commencer par la trilogie consacrée à la planète des singes. Alors j'entends certains d'entre vous me dire, comment ça une trilogie? Il me semblait que la saga de la planète des singes avec Charlton Heston était constituée de 5 films. Eh bien oui! Sauf que je ne parle pas de celle-là! Je vous parle de la nouvelle trilogie de la planète des singes, dont le premier film est sorti en 2011, c'est-à-dire il y a presque 10 ans maintenant. Composé de 3 films, j'ai eu le plaisir de la découvrir dans son intégralité sur la plateforme Amazon Vidéo. Effectivement, c'est pas extrêmement pointu, mais bon. Après les deux derniers films, tout moisi de George Clooney et de David Fincher, il me fallait quand même un peu de détente et surtout beaucoup de divertissement. L'histoire de cette trilogie commence lorsque Rick Jaffa et sa compagne Amanda Silver, deux scénaristes d'Hollywood, réfléchissent à une relance de la série. Ils ont l'idée d'ailleurs de s'inspirer du quatrième film de la série des années 60 qui nous raconte l'ascension des singes sur Terre. Mais attention, ceci n'est pas un remake. L'histoire ici se passe à San Francisco, où le scientifique Will Rodman essaye de mettre au point un remède contre la maladie d'Alzheimer. Testé d'abord donc sur des singes, on s'aperçoit que ce remède, qui est une sorte de virus, entraîne chez les primates un accroissement de leur intelligence. Lorsqu'après quelques péripéties, le directeur du laboratoire décide de mettre fin au projet, Will enlève un tout jeune singe, qu'il nomme César, et va l'élever chez lui. Ce dernier, César, qui a bénéficié des effets du remède, se révèle extrêmement intelligent et capable. Alors il va y avoir tout un quiproquo qui va faire en sorte que César soit capturé par la fourrière, les services d'État, et envoyé dans un foyer pour singes. Enfermé là-bas, César va s'entourer de la troupe de singes qui est enfermée elle aussi et très maltraitée, et va même réussir à leur inoculer le virus. Vous l'avez compris, les singes qui sont devenus intelligents vont finalement se rebeller et prendre possession d'une grande forêt près du pont de San Francisco sans avoir au préalable affronté la police sous les yeux désespérés de Will. Eh bien, à ma grande surprise, ce premier volet, c'est un film plutôt bien réussi. Réalisé par Rupert Wyatt, dont c'est à peine la deuxième réalisation, La planète des singes, les origines, nous offre une histoire rythmée et passionnante, plutôt bien jouée d'ailleurs, puisque c'est James Franco, qu'on a pu voir dans des films comme 127 heures, qui joue le scientifique, et il faut reconnaître qu'il se débrouille plutôt bien. Il sait tenir une production de ce genre sur ses épaules, mais bon, ce qui fait surtout sensation dans ce premier film, La planète des singes et les origines, ce sont avant tout les effets spéciaux. En effet, plutôt que de choisir de mettre des acteurs en costume avec des prothèses, comme l'avait fait Tim Burton dans son remake qui était tout raté, les producteurs, cette fois-ci, ils ont eu la très bonne idée d'appeler la firme Weta Digital. Alors si ça ne vous dit rien, Weta Digital, bah, c'est la compagnie d'effets spéciaux qui a été créée par Peter Jackson pour le film Créatures Célestes, ou encore, vous l'aurez compris, pour Le Seigneur des Anneaux. Donc autant vous dire que, niveau effets spéciaux, c'est quand même extrêmement bien réussi. Tous les singes sont numériques, mais s'ils sont tout numériques, ils ne sont pas faits n'importe comment. Les responsables de la compagnie, ils ont en effet passé des heures à filmer et à mettre en algorithme les mouvements de nombreux singes. Et je vous assure que c'est tout simplement saisissant. On s'y croirait absolument. Et ils réussissent même à faire des effets qui sont incroyables avec des singes mouillés. Donc l'eau, c'est très très difficile à faire en image de synthèse. Les poils, c'est très difficile aussi. Et vraiment, c'est impeccable. Hein. Il faut dire aussi que la firme, elle a employé pour ce film un nouveau système qui permet d'utiliser la motion capture en extérieur. Vous savez, la motion capture, c'est cette technologie qui permet de transformer un acteur en créature tout en respectant ses mimiques et ses mouvements. Ah, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vu dans des making-of ou des choses comme ça, ces images où des acteurs jouent sur un fond vert avec des petites pastilles de couleurs un petit peu partout sur le corps. Eh bien, c'est ça, la motion capture. Et c'est dans La Planète des Singes des Origines que l'on va pour la première fois utiliser cette technologie dans des décors réels, comme par exemple sur le pont de San Francisco. On n'est plus limité par un fond vert, et ça permet donc aux acteurs d'interagir véritablement avec leur environnement. Et à tout seigneur tout honneur, c'est un acteur plutôt chevronné qui va endosser le rôle de César, Andy Serkis. Alors si vous ne connaissez pas Andy Serkis, je suis certain que vous l'avez déjà vu. En effet, c'est lui qui incarnait Gollum, donc un personnage qui était déjà tout en motion capture, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc autant vous dire que le système, il le connaît plutôt bien. Et même s'il est numériquement transformé en singe, eh bien, il arrive à donner à César une humanité et une noblesse qui sont vraiment saisissantes. Bizarrement, hein, il livre peut-être sa meilleure prestation d'acteur. Hein, Alors l'histoire, elle est plutôt bonne, les acteurs, ils sont sans défaut, et les effets spéciaux, ils sont extrêmement réussis. Donc La Planète des Singes, Les Origines, le premier film de cette trilogie, c'est carrément un bon divertissement. Le deuxième opus, hein, qui est nommé La Planète des Singes, L'Affrontement, va connaître, lui, beaucoup de bouleversements, puisque le réalisateur de départ, il est remplacé, comme tous les acteurs humains, en fait. Il est d'ailleurs remplacé par Matt Reeves, qui va réaliser prochainement le Batman avec Robert Pattinson. Ce film, il commence 10 ans après la fin du film précédent, et il va nous raconter d'abord l'escalade de la violence, et pour finalement nous raconter la guerre entre les humains et les singes, les humains ayant été tous décimés par le virus qui a donné aux singes leur intelligence. C'est un petit peu d'actualité, malheureusement. Ce deuxième film, il est aussi très réussi, même s'il est un petit peu prévisible, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu les ficelles du scénario, on sait qu'il va y avoir des trahisons, ce genre de choses, mais ça passe très très bien, c'est extrêmement bien réalisé. Il est porté par la prestation toujours impeccable d'Andy Serkis dans le rôle de César, mais aussi de Gary Oldman, hein, qui joue son opposant humain. Ça finit très bien, enfin très très mal hein, d'ailleurs, et on a envie de voir un troisième film, et ce troisième film, il va arriver quelques années plus tard. Il s'agit de La Planète des Singes Suprématie, et il est un petit peu en dessous. J'étais un petit peu déçu, je vous avoue, parce que, bon, il raconte quasiment la fin de l'humanité et le remplacement de l'homme par les singes. Hein, ce qui fait qu'il raccroche tout à fait les wagons avec le premier film avec Charlton Heston dedans, mais il conclut de belle manière le destin de César. Alors, je l'ai trouvé en dessous parce que on a l'impression que le film s'inspire un petit peu trop de Apocalypse Now, sauf que Matt Reeves, même s'il est plutôt bon, c'est pas Francis Coppola, et que Woody Harrelson, qui joue cette fois-ci l'opposant humain qui est confronté à César, il fait une espèce de remake de Marlon Brando que j'ai pas du tout aimé, c'est pas très réussi, je trouve qu'il en fait un petit peu trop. La fin, c'est pareil, c'est vraiment effets spéciaux sur effets spéciaux, et ça a pris un petit peu le pas sur l'humanité et sur toute l'humanité qui transparaissait dans ces singes. Donc oui, il est pas foiré, c'est pas un mauvais film, mais c'est le plus en dessous des trois, on va dire. Ce qui n'empêche pas hein, que finalement, après visionnage, cette trilogie, elle est tout à fait sympathique. Alors ça va pas révolutionner le cinéma du tout. Pour les effets spéciaux quand même un petit peu. Hein. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus, sinon que j'ai passé un bon moment. Donc ma foi, si vous avez envie de regarder une bonne franchise, qui n'est pas extrêmement violente. Vous pouvez la regarder avec vos petits-enfants, avec des enfants qui sont, je dirais, dans l'âge de 10-12 ans. Hein. Ça passe, il n'y a pas de problème. Avec en plus de très bons effets spéciaux. Eh ben, je ne saurais vous conseiller de vous pencher sur cette trilogie La Planète des Singes, qui est disponible sur Amazon Vidéo.
Cinémag, avec Cédric Sequinel.
Maintenant, vous parler de The OA, une série en deux saisons disponible sur la plateforme Netflix. The OA, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, The OA, c'est l'histoire de Prairie Johnson, une jeune femme aveugle qui a disparu alors qu'elle n'était qu'une adolescente. 7 ans plus tard, on la retrouve et elle est ramenée à ses parents. Et cela constate avec surprise que Prairie a retrouvé la vue, mais surtout que son corps est constellé de scarifications bizarres. Prairie, elle est persuadée que son amour, qui s'appelle Homer, et qu'elle a connu durant sa disparition, a franchi une autre dimension via un rituel magique, une espèce de danse saccadée et macabre, dont les mouvements lui sont apparus lors d'expériences de mort imminente. Prairie, qui veut désormais qu'on l'appelle Oe, on comprendra pourquoi, fait alors la connaissance d'un groupe de 5 personnes, des recalés de la vie. Dans cette première saison, Prairie va raconter son histoire, sa capture par un médecin fou, et enseigner à cette petite troupe de rejetés les fameux mouvements qui leur permettront peut-être de traverser le miroir et de rejoindre un nouveau monde. À la fin d'ailleurs de cette première saison, on reste d'ailleurs sur une ambiguïté majeure. Est-ce que c'est du flan ? Est-ce que Prairie est juste une illuminée ? Ou un être différent, véritablement en lien avec le multivers ? Et dès le départ de la saison 2, on a une réponse à cette question. Et on se rend compte que tout ce qui se passait dans la saison 1, bah, c'était loin d'être du flan. Britt Marling, qui joue aussi Prairie, et Zal Batmanglish, les deux réalisateurs de la série, tiennent déjà la trame hein, de tout, ce qui fait le charme de The OA, et il faut reconnaître que dans la saison 2, ils vont oser énormément de choses. La série part dans toutes les directions. On a des maisons hantées, un jeu viral, des voyages interdimensionnels, des jeux de miroirs, des anges, et même une créature poulpe géante qui pourrait faire penser à Cthulhu. Hein, voilà. Vous pensez que ça fait beaucoup, que ça fait un peu peur ? Pas du tout. Et c'est là que la série mérite un grand coup de chapeau. Toutes ces influences, tous ces clins d'œil fonctionnent parfaitement dans le cadre et dans la mythologie de The OA. C'est subtil et c'est surtout parfaitement coordonné. Le mélange entre toutes ces références finit par donner quelque chose d'unique et de très singulier. Sincèrement, c'est pour moi la série qui se rapproche peut-être le plus de Twin Peaks, hein, de David Lynch, avec une réalisation toutefois un tout petit peu plus rationnelle. C'est peut-être le seul bémol hein, de The OA. La réalisation, qui est très bonne au demeurant, hein, elle manque peut-être un tout petit peu de folie et de baroque. Mais c'est un détail. Les images sont jolies, il y a de bonnes idées, mais c'est un petit peu lisse parfois. Alors ce très léger défaut, il est toutefois compensé par une qualité d'écriture impressionnante. Il n'y a aucune mauvaise idée, et les personnages sont vraiment décrits tout en finesse. On n'en fait jamais des caisses, on ne met jamais la différence des personnages en avant, et c'est bien. En fait, la complexité et la profondeur des personnages sont traités et distillés de manière subtile et nuancée, et ça change dans une série. Donc ça rend nos héros beaucoup plus humains et touchants. Et puis, que dire de l'interprétation ? Moi qui suis généralement très difficile et très critique sur le jeu des acteurs, bah, je ne peux que m'incliner devant la prouesse de tout le casting, Britt Marling, la créatrice et l'actrice principale en tête, qui réussit à donner à son personnage des nuances fortes. Tout le monde joue juste, et c'est assez rare pour être mentionné. On notera au passage hein, la présence au casting d'Irène Jacob, l'actrice franco-suisse, de Trois couleurs rouges. Alors, The OA, c'est vraiment une très très bonne série, mais je pense que son sujet était tellement compliqué que malheureusement, Netflix ne l'a pas reconduit pour une troisième saison. On restera donc sur notre faim, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans The OA, disponible sur la plateforme Netflix. C'est tout pour cette semaine, moi je vous retrouve dans 2 semaines, et je laisse la place la semaine prochaine à la super équipe de l'Option Cinéma du lycée Rotrou. Au revoir à tous et à bientôt.
Cinémag, avec Cédric Sequinel.